les jardinières.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous nature du samedi matin. L'heure parfaite pour enfiler ses bottes, respirer l'air frais et plonger ses mains dans la terre. C'est parti pour un nouveau numéro des jardinières. Bonjour Noélie.
Bonjour Mylène.
Et ce matin, nous allons suivre les conseils et les recommandations de notre invité Jean-Pierre Ribaud. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Et Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. Merci d'être avec nous ce matin.
On jardine ensemble dès maintenant et jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Alors Jean-Pierre, c'est un printemps plutôt humide accompagné de températures fraîches. Dites-nous, est-ce que cette maussade a un impact sur nos cultures? Est-ce qu'on a du retard?
Alors on a en tout cas pas beaucoup d'avance au niveau des plantations, des semis et puis des plantons que l'on aura mis en place dans les potagers parce que ce froid a un peu bloqué le développement. Cette masse d'eau a facilité peut-être les reprises, les germinations, mais après derrière on a eu pas mal d'attaques de limaces et puis à partir de là il a fallu quand même un peu contrôler tout cet élément. Et puis qui dit pluie dit évidemment mauvaise herbe et puis dans les semis, dans les plantations que on a déjà réalisé, et bien sûr qu'au premier coup de soleil qui reviendra, il faudra biner, piocher pour casser cette structure et puis éradiquer les mauvaises herbes qui arriveront. Et puis pour les premiers qui avaient déjà planté les tomates ou les concombres courges, une partie ne se sont pas du tout développées et puis il y a de fortes chances qu'il faille replanter quelques plants dans les carreaux parce qu'on a eu un peu de perte avec ce froid. Mais à l'évidence, le futur nous promet du chaud et puis on peut continuer d'attaquer.
Merci Jean-Pierre, vous êtes notre invité jusqu'à 8h et en seconde partie d'émission, on le rappelle, vous répondrez aux questions de nos auditeurs, des questions qu'on attend par téléphone au 0 901 70 20 20, et vous aurez l'occasion de parler directement à Jean-Pierre. Mais vous pouvez également nous envoyer une photo et pour le faire, il faut se rendre sur nos sites via les formulaires que vous pouvez nous envoyer. Et puis la troisième manière de s'y prendre, c'est par SMS. Vous tapez jardin au début de votre message, vous laissez un espace suivi de votre question et vous nous envoyez le tout au 939.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, chez les jardinières, on vous emmène au bord de l'étang. On parle biotope, cet équilibre naturel où grenouilles, roseaux et libellules vivent en colocation. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Pour commencer, Jean-Pierre, est-ce qu'il y a des différences quand on parle de biotope, de mare ou d'étang?
Oui, alors bien sûr, en fait, le biotope, c'est un ensemble d'éléments qui aménage une zone naturelle dans l'espace, mais c'est pas forcément un élément dans lequel vous trouverez un point d'eau, une rivière ou une mare. Ça peut être aussi un talus, ça peut être une prairie fleurie, ça peut être tout ce que l'on trouve dans le milieu nature. Le biotope, il regroupe une multitude d'éléments, mais pas forcément avec une zone humide. Et puis la mare, eh bien sûr, c'est un plan d'eau qui n'a pas d'alimentation naturelle au niveau de son affluent. Et puis là, s'épanouit bien sûr la végétation, la microfaune. Ça fait partie de biotopes différents. On pourrait aussi très bien dire une zone humide où vous n'avez pas d'eau apparente. Et puis ça fait partie aussi d'un autre biotope. Et puis pour ce qui est de l'étang, c'est souvent des plans d'eau qui sont beaucoup plus grands, avec des affluents avec lesquels on arrive à réguler l'altitude de l'eau de cet étang. Ça a souvent un but différent. L'étang, c'est plutôt recherché pour de la pisciculture, alors que la mare, elle est plutôt consacrée pour ce qui est de la microfaune naturelle de chez nous.
Pourquoi un étang, même petit, reste important pour la nature?
Parce que même petit, un étang, c'est un plan d'eau dans lequel va s'épanouir une multitude de microfaune et de végétation. C'est quelque chose qui va permettre de réguler un peu la région dans laquelle vous serez. Tous ces insectes, ces batraciens qui arriveront vont pouvoir s'épanouir. Et puis la végétation va également pouvoir épanouir le site.
Jean-Pierre, est-ce qu'une mare ou un étang, hein, pour utiliser les bons termes, ça change quelque chose dans le jardin, par exemple pour l'humidité ou la vie autour? Vous avez parlé des insectes, est-ce que ça apporte plus de moustiques?
Non, alors évidemment que non. De toute façon, une mare ou un étang, c'est des éléments qui se régulent d'eux-mêmes avec la microfaune qui arrive dedans, par les batraciens, par la microfaune, les libellules et autres. Vous n'aurez pas de problème particulier par rapport aux moustiques. Et puis, qu'est-ce que ça peut amener dans ce milieu? Eh bien sûr, c'est une zone refuge pour toute la microfaune qui se trouve dans la région. La qualité paysagère y est nettement améliorée. Et puis, c'est vraiment un plus, je dirais, qui va pas donner beaucoup de travail et puis qui épanouira le site, excusez-moi.
Est-ce qu'un étang peut s'équilibrer tout seul ou alors ça serait bien de lui donner un petit coup de pouce?
Alors là, on parle d'étang. Si on parle d'étang ou de mare, la différence, c'est que la mare, il faudra un peu la gérer au niveau des plantes, parce que dans la mare, vous avez un moins grand volume d'eau, une moins grande épaisseur d'eau. Et puis évidemment, les hélophytes, les hydrophytes ont tendance à coloniser l'ensemble du site. Donc il y a un peu de gestion à faire par rapport à ces plantes aquatiques. Par contre, l'étang, non. Lui, il va s'équilibrer naturellement parce qu'on a une altitude d'eau beaucoup plus conséquente. On gérera peut-être un peu à l'automne les hélophytes qui se trouvent sur le pourtour. Pour la microfaune en elle-même, on n'aura pas de soucis particuliers. Ce qu'il faut peut-être éviter à tout prix, c'est de lâcher des poissons rouges, des poissons dans ces milieux, si le but n'est pas rechercher un site piscicole, parce que tout ce qui est de piscicole va détruire une bonne partie de la faune indigène qui devrait s'y développer, et puis va créer un déséquilibre qui serait négatif. Et puis, on sait très bien que les poissons rouges dans des zones d'eau qui sont plus petites comme la mare, la température d'eau va faire que ça va se développer à la vitesse grand V. Vous aurez une multitude de poissons rouges au détriment total de tout ce qui sera des alevins, des batraciens et autres qui devraient s'y développer. Et puis on a souvent des problèmes avec tout ce qui est piscicole dans un biotope. C'est que ça souille le fond du biotope, ça remue l'eau du biotope, donc de la mare ou de l'étang, et puis vous aurez une eau qui sera totalement trouble, vous n'aurez jamais une eau qui sera limpide, dans laquelle vous allez voir toute la microfaune se développer. Par contre, dans le biotope, si la zone elle est vraiment plus grande, eh bien vous arriverez à mettre quelques poissons, mais c'est de nouveau au détriment de la faune aquatique, et puis si le but ne pas rechercher vraiment de faire de la pêche ou autre, évidemment qu'il est vraiment négatif de les lâcher et puis de laisser s'épanouir. Tout ça naturellement est plus intéressant.
Jean-Pierre, vous avez parlé justement de l'eau. Comme la mare, elle est plus petite, est-ce qu'en été, par exemple, il faut penser à la remplir?
Normalement pas, si elle a été réalisée d'une manière juste. Vous aurez un peu de perdition qui sera due à l'évaporation et puis à la consommation des plantes qui se trouvent sur le pourtour, mais l'eau ne devrait pas descendre de trop, vous ne devrez pas avoir ce problème-là si l'étang ou la mare est étanche. Si vraiment vous avez une mare qui est percée avec une bâche et puis que vous avez une altitude d'eau qui descend drastiquement, eh bien là, selon le matériel qui aura été utilisé au préalable, on arrive à recoller ces structures avec des feunes et puis des tacons. C'est dommage de laisser se perdre cette altitude d'eau, parce que c'est souvent en été que ça arrive, ces problèmes. Et puis si on a ces problèmes-là, toute la microfaune va disparaître. Vous aurez même de l'asphyxie parce qu'un manque d'eau. Et puis si vous avez trop de batraciens qui se développent dans cet élément, eh bien par asphyxie, vous allez perdre toute cette microfaune.
7h, 8h, les jardinières.
Jean-Pierre, vous êtes notre invité chez les jardinières ce matin et on parle biotope, ces espaces de vie pour la biodiversité. Vous nous avez expliqué le rôle de l'étang, de la mare. On va voir comment mettre en place. Alors Jean-Pierre, par quoi on commence si on veut installer une petite mare dans son jardin?
Oui, eh bien, on va analyser un peu la zone disponible de l'espace, de s'imaginer qu'il serait joli pour avoir un maximum de qualité visuelle. Au niveau écologique, qu'il soit à droite, à gauche, on aime bien le mettre plutôt dans un milieu quand même ouvert, où il n'y a pas trop de végétation, et puis que le soleil puisse venir réchauffer cette mare. Et puis, à partir de là, quand la décision est prise, alors mieux vaut faire une mare de 8 10 mètres carrés minimum que d'avoir une mare de 3-4 mètres carrés parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'été peut permettre un assèchement de ces petits bassins parce qu'il n'y a pas assez d'altitude d'eau et puis là, on causerait des désagréments de la casse au niveau de la microfaune. Donc, si on peut se permettre de faire un biotope de 8-10 mètres carrés, eh bien, bien sûr, on va pratiquer le terrassement. On va affiner le sous-sol pour ne pas avoir d'éléments trop dégradants sur la future bâche. Là, il vient en général un feutre, une bâche étanche, un feutre par-dessus qui va nous protéger vraiment cette étanchéité. Et puis, on va lester cette bâche avec ce qu'on aime bien chez nous, c'est le gravier calcaire que l'on trouve ici dans la vallée de Dlémont. On n'aime pas tellement mettre du matériel de carrière qui a été abrasif. Et puis, une fois que ces éléments-là sont réalisés, on peut se permettre la mise en eau. Il faut peut-être, pour celui qui n'a jamais réalisé de bassin, de biotope de ce genre, prendre un peu des renseignements, des conseils, parce qu'on a vite fait de faire des petites erreurs. Du principe, le feutre intérieur, si vous le remontez trop sur les berges, il y a des risques qu'il fasse office de buvard, et puis vous vide en partie votre biotope. Donc il y a une mesure à prendre pour ne pas avoir ce phénomène-là. Et puis au niveau des bâches, eh bien, on s'imagine bien qu'une bâche carrée posée dans une forme cylindrique, on aura des plis qui vont se créer. Et puis, on n'aime pas ces plis parce qu'avec le vieillissement, la bâche, il y a un risque de craquement et puis de perte d'eau. Et puis, les professionnels, eh bien, on coupe ces plis et puis on se permet de les recoller avec des feunes spéciaux pour éradiquer ces plis et puis qu'on ait un vieillissement zen de ces bâches. Et puis, une fois que ça a été fait, eh bien, après, l'eau arrive et puis l'aménagement d'hiver se réalise. Ça veut dire qu'on va volontiers lui mettre de la végétation. Et puis, pour tout ce qui est de la microfaune, elle va arriver naturellement.
Les jardinières.
Samedi matin, on vous parle jardinage dans votre radio. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. Ce matin, on découvre les biotopes, les étangs, les mares, ses habitants et sa faune. Et nous prendrons également le temps de répondre aux questions de nos auditeurs.
Toujours trois possibilités pour poser vos questions. On le rappelle, par téléphone, c'est possible en composant le 0901 70 20 20, et vous aurez la chance de parler directement à Jean-Pierre. Vous pouvez également nous envoyer une photo avec votre question en remplissant le formulaire sur notre site, ou alors un simple SMS, c'est aussi possible, au 939. Il faut taper « jardin » au début du message, laisser un espace, puis votre question et nous envoyer le tout au 939.
Jean-Pierre, avant la pause, vous nous avez parlé de la mise en place de ces mares biotopes étangs et puis de la taille qui est la mieux, entre 8 à 10 mètres carrés, ça c'est pour les petits. Combien de temps est-ce qu'il faut pour que la vie s'installe autour d'un nouvel étang ?
Ben, ça va relativement vite en fait. La microfaune, elle est très vite présente dans ce milieu que vous aurez réalisé. Alors combien de temps, je dirais au bout d'un mois, un mois et demi déjà, vous avez les tritons, les grenouilles qui apparaissent. Et puis après, tout va très vite pour le développement. Ce qu'il faut savoir, si vous voulez faire ce genre d'éléments chez vous, un biotope ou un étang, une mare, et puis que vous avez une alimentation naturelle avec un petit ruisseau, il n'est pas très judicieux d'amener trop d'eau dans ce genre de milieu parce que la microfaune va se développer vraiment aisément dans une eau plutôt tempérée qu'une eau froide. Et puis souvent, les affluents, eh bien, ils nous amènent de la température froide qui est au détriment de ce développement. Et puis au niveau de la végétation, bien, c'est la même chose, à part que si vous n'en mettez pas du tout, il faudra un peu plus de temps. Vous devrez un peu combattre au préalable les arrivées des saules, c'est les pionniers qui arriveront en premier. Et puis après, il va se développer un peu des algues et puis de la végétation aquatique. Mais là, il faudra vraiment lui donner ce petit coup de pouce supplémentaire pour que ce soit bien aménagé avec une diversité, parce que sinon, bah évidemment, ils ne vont pas arriver tout seuls, ces plantes aquatiques. Et puis la microfaune, ben voilà, elle sera présente sans souci.
En parlant de végétation, justement, quelles plantes sont utiles pour que l'étang reste en bonne santé ?
Eh bien, nous, en général, quand on fait des grandes surfaces d'eau, on commande souvent de la mini-motte. Mais pour un commun, ici au travers, le mieux, c'est d'aller faire des prélèvements dans des ruisseaux, dans des bords d'étangs, de micro-mottes que vous trouverez, soit l'iris, soit le cala, le calta. Vous avez aussi les hydrophytes, qu'il faut pas oublier, la menthe aquatique, il y a la seigne. C'est des éléments que vous prenez dans ce milieu nature que l'on a par chez nous. Et puis, vous arrivez à les réimplanter facilement dans vos étangs. Chez vous. Tout ce qui est des hélophytes, eh bien, vous le planterez à la hauteur du filet d'eau qui se trouve entre la terre ou l'élément que vous aurez mis en ballast dans votre biotope. N'en mettez pas trop parce que c'est vite densifiant et puis c'est vite asphyxiant. Et puis pour les hydrophytes, en général, là, il faut les attacher sur un petit caillou ou les lester d'un élément pour qu'ils arrivent à se poser sur le fond de votre biotope et puis raciner. Et puis peut-être une précision, il serait mauvais de partir de l'idée de mettre de la massette dans une mare qui n'est pas très très grande, parce que la massette, c'est un élément qui est très colonisateur, qui est envahissant. Il pourrait même altérer votre biotope dans le temps. Donc ne mettez jamais de massette. Si vous en voulez voir, allez plutôt dans les grands milieux nature que l'on a par chez nous. Et puis si malheureusement vous en aviez qui arrivaient dans votre biotope par l'arrivée d'oiseaux, de canards ou je ne sais pas, eh bien il est plus intéressant de l'enlever de suite pour ne pas avoir cette colonisation générale, parce que à un moment donné vous allez même plus voir l'eau, et puis pour l'éradiquer derrière il faudra presque repartir à zéro, enlever tout le matériel intérieur de votre biotope parce que vous ne voulez même plus voir l'eau. Donc la massette est à proscrire. Et puis le jonc, la même chose, c'est plutôt un élément qu'il faut mettre dans un grand milieu humide et puis pas autour d'un biotope, parce que c'est des éléments qui arrivent à 2 mètres de haut, 2 mètres 50, et puis ils vont pas forcément se retenir d'eux-mêmes, et puis ça va plutôt poser des désagréments qu'une qualité paysagère.
La massette, pour ceux qui se demandent, si jamais ça ressemble à un gros coton-tige.
Exact.
Avec un boubre. Voilà. Si on a envie, vous avez dit des plantes indigènes. Mais par exemple, on aimerait vraiment des nénuphars. Ces gros nénuphars, tout roses, tout beaux. C'est une bonne idée ou pas dans un étang ?
Alors, dans le milieu nature, chez nous, il n'est pas intéressant de l'avoir parce que c'est une plante qui n'est pas du tout originaire de chez nous. Donc, souvent, dans les compensations écologiques qu'on a réalisées dans le milieu nature, ils sont proscrits. Ça arrive de temps en temps qu'il y a un petit malin qui vienne nous en poser, hein. Ah, il peut rester, c'est encore pas trop désagréable, dans le sens où ça peut pas coloniser l'ensemble du biotope. Par contre, pour un biotope privé et puis que vous avez envie d'y mettre un ou deux nénuphars, oui, bien sûr, c'est faisable. Ça s'achète, on le trouve dans le commerce. Le nénuphar. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'eau est tempérée et chaude, plus le nénuphar va se développer. Et puis, à un moment donné, il faudra aussi le combattre, parce que sinon, il va vous atterrir l'ensemble du biotope, et puis vous n'allez plus voir le fond de votre biotope et la microfaune qui se développe. Donc, n'en mettez pas trop au début, c'est vite envahissant. Et puis, dans le temps, il faudra un peu le combattre pour garder de l'eau à la luminosité.
Jean-Pierre, si vous deviez convaincre une personne d'installer un biotope dans son jardin, que diriez-vous ?
Pour celui qui aime la nature, c'est magique. Vous avez ce milieu qui se développe, qui s'épanouit, qui vit. Au printemps, vous avez les calas, les caltas, les iris qui sont en fleurs. Ensuite, vous avez toute la microfaune qui se développe. Vous avez évidemment ces nénuphars. Je trouve que c'est magique. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir de cascade ou autre. Il faut comprendre, une mare reste un plan d'eau stable, qui ne bouge pas. Évitez vraiment de mettre des poissons ou des carpe-coï, parce que ça va vraiment altérer l'ensemble du site. Un beau biotope avec une eau limpide, juste magique, je trouve. La végétation aquatique est assez particulière. Vous avez dans les massettes aquatiques souterraines des éléments super beaux. Et puis, si vous avez encore la chance d'avoir un petit ruisseau en parallèle et puis alimenté avec une petite arrivée d'eau, c'est juste fantastique, oui.
Et c'est très apaisant. Merci Jean-Pierre pour vos conseils. Et puis bien sûr, pour les personnes intéressées, n'hésitez pas à vous tourner vers des professionnels comme vous, Jean-Pierre, qui vous guideront pour installer un petit étang ou une mare.
7h, 8h, les jardinières.
Jusqu'à 8h, on répond à vos questions jardinage. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Et je crois, Noélie, vous avez une personne au téléphone.
Exact, on a Jean-Pierre qui nous appelle de Mauvelier, qui a une question pour vous, Jean-Pierre.
Alors Jean-Pierre de Mauvelier, peut-être couper le son.
Marcel, tout de suite.
Voilà.
Voilà, ça sera plus agréable pour nous. Yeah. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question, Marcel?
À cause d'un pommier qui est malade, je voudrais savoir qu'est-ce que je peux y faire.
Oula, bonjour Marcel. En fait, si j'ai pas de photo ou l'élément devant, ce sera peut-être plus difficile de vous répondre judicieusement, mais ce qu'on a eu beaucoup comme attaque ce printemps, c'est des attaques de moniliose. C'est un champignon qui est rentré par la fleur quand elle était ouverte. Et puis, ce champignon vous attaque l'élément fruitier, les 3-4 premiers centimètres. Et puis là, en cette période, on se rend compte que vous avez pas simplement de petits sarments qui s'assèchent, qui tombent. On a même eu des téléphones pour savoir si ça pouvait être du feu bactérien. Évidemment que non, en tout cas pas à cette période. Le feu bactérien serait présent plutôt en fin juin, début juillet, quand il fera très chaud. Vous avez certainement ces problèmes de moniliose qui ont fait une grosse attaque sur votre pommier. Il va survivre à ça, il n'y a pas de souci. Bien sûr que ça a mis en péril une bonne partie de la production de fruitières de cette année. Pour combattre ça l'année prochaine, il faudrait lui faire un phytosanitaire, un fongicide avant fleur, évidemment vraiment avant fleur, quand les boutons commencent de gonfler, pour ne pas altérer l'abeille qui viendra butiner vos fleurs. Et puis vous allez parer à 95% de ces attaques de moniliose. Il faut aussi savoir qu'il y a des années où on a vraiment des grosses attaques et puis d'autres années on a moins de cas. C'est souvent une question d'humidité, de température lors de la floraison.
Oui, je voulais demander si je pouvais le faire au cuivre. Je peux essayer.
Oui, bien sûr, mais là, c'est vraiment trop tard parce que vous avez vraiment déjà le dégât. Et puis, il n'y a plus rien à faire pour ce problème-là en cette période. Il faudra le faire au cuivre plutôt, si vous voulez le faire à l'entrée d'automne, à la chute des feuilles, pour éviter déjà que ce champignon ne rentre par le pétiole, la plaie du pétiole de la feuille qui sera tombée, vous pouvez. Et puis après, mars, début avril, l'année prochaine, vous pouvez aussi renouveler effectivement ce cuivre pour parer à ce phénomène.
Oui, alors je vous remercie. Vous savez ce que j'ai fait cette nuit? Il y avait 0 degré chez nous. J'ai tout empaillé le jardin.
Eh bien, vous êtes courageux, Marcel.
Je comprends.
Ah, mais je suis heureux ce matin parce que tout serait été fichu. J'ai toutes sortes de... Un jardin énorme.
Eh bien, félicitations. Et puis, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles de votre pommier cet automne. On vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Courage avec votre jardin.
C'est sûr.
Au revoir.
Au revoir.
Bon week-end.
Jean-Pierre, merci. On va enchaîner avec une question de Dominique de la Côte aux Fées au Val de Travers. Elle nous dit « Bonjour à vous, j'ai fait germer des pois de cœur. Combien faut-il en planter dans un pot pour avoir une belle plante bien fournie ?»
Oui, alors bien sûr, ça dépend de la grandeur du pot. Si vous avez un pot, un grand pot, un grand volume, vous pouvez mettre une trentaine, une quarantaine de semences. Après, si vous avez un pot d'un diamètre de 30-40 cm, une dizaine de semences vont suffire. Bien sûr que le pot, c'est quelque chose qui se développe. Hein. Il faudra aussi la structure pour qu'il puisse se supporter de lui-même. Donc, plutôt prendre un pot... pas trop haut, plutôt large pour qu'il soit stable par rapport à l'élément qu'on devra poser pour tenir ses pois. Et puis, étant donné que c'est une plante qui se développe très vite avec une forte densité de végétation, entre 10 et 15 graines, c'est déjà suffisant pour avoir quelque chose d'épanoui.
On a reçu également une question de Manu de la Chaux qui a des champignons dans son jardin. Il demande comment faire pour les faire disparaître.
Une
ce que l'on comprend. Oui, non, ce que l'on ne sait pas, c'est si c'est dans son jardin potager ou si c'est dans son aménagement paysager. Si c'est dans le potager, c'est évident que ces champignons sont le résultat d'une transformation de matière nutritive. Soit il a mis du fumier, du compost, et puis ce champignon se développe là-dessus. Si c'est dans l'aménagement paysager, c'est souvent des rondes sorcières. C'est du mycélium qui s'est développé. Et puis là, on peut intervenir avec... un autre produit que l'on trouve aussi dans le commerce. En tous les cas, dans le potager, si c'est dans ce potager qu'il a ses champignons, le mieux, c'est de sarcler, biner pour casser la croûte superficielle du terrain, pour assécher le terrain. Et puis, il est obligé de laisser passer cette décomposition de matière organique. C'est juste ce phénomène qui développe ce champignon. Ça ne doit pas poser problème au niveau de la culture. C'est de toute façon pas des champignons qui sont négatifs au niveau de la culture. Donc, juste un binage et puis laisser le temps que se passe cette décomposition et puis ça va disparaître.
7h, 8h, les jardinières.
7h52 chez les jardinières. Jean-Pierre, on a encore le temps de vous poser une question. Bonjour, j'ai un yucca qui mesure environ 1m80. Maintenant, il me cache une peinture au mur et devient vraiment trop haut. J'aimerais raccourcir d'environ 50 cm. Puis-je le couper n'importe où? Et que faut-il faire à la hauteur de la coupe? Merci de votre réponse. C'est Ronald de Tramelan qui le demande.
Oui, bonjour Ronald. Bien sûr que votre yucca peut se couper. On connaît le yucca, hein, c'est quelque chose qui pousse sur un grand tronc avec un épanouissement à la hauteur forme de palmier. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez le raccourcir de 50 cm, à la hauteur de la coupe seulement va redémarrer une pousse, et puis pour qu'il soit épanoui, il vous faudra presque regagner ces 50 cm. Vous avez presque meilleur temps de couper plus bas, de 80 cm, même 1 mètre. Vous aurez automatiquement des redémarrages sur des yeux latents qui se trouvent sur la hauteur du tronc. Et puis, vous aurez une plante beaucoup plus jolie avec plus de démarrage parce que vous allez pouvoir vous permettre de les laisser beaucoup plus denses. Si vous les coupez déjà trop haut, ça va repartir tout en haut. Et puis, vous aurez toujours ce tronc qui sera terriblement dégagé. Et puis, bien sûr, au niveau de la coupe, alors on fera attention à faire une coupe d'équerre. On fait jamais une coupe de biais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la coupe de biais, ça allonge énormément la plaie et puis c'est des entrées beaucoup plus conséquentes au niveau des risques, des maladies et autres. Et puis au niveau de la cicatrisation, plus la coupe est de biais, plus elle est longue, plus il faudra du temps pour la couper. Et puis non, on met pas de mastic, on prend pas de mesure particulière sur la coupe du yucca ou même de toute autre coupe, parce qu'on sait très bien que ces mastics, ça tient une année et puis au bout d'une année ça se décode, on a quand même les entrées d'eau qui arrivent dans les coupes et puis ça altère le bois. Donc ce qu'il faut, c'est limiter le diamètre des coupes, donc évidemment aussi des coupes à l'équerre pour limiter cette grandeur, et puis pour le reste, c'est la nature qui va s'en charger.
Et puis Jean-Pierre, encore une dernière question pour vous, qui nous vient d'Isabelle de Chevenay. Bonjour, notre prunus a fait une magnifique floraison, mais maintenant il sèche. Le phénomène s'accentue rapidement. Petite précision, il a plus de 25 ans. Que pouvons-nous faire? Merci et belle journée.
Et Jean-Pierre, si vous regardez votre téléphone, vous avez reçu la photo via WhatsApp de ce prunus où on peut voir, bon c'est un peu à contre-jour, mais on peut voir les feuilles justement séchées de ce prunus. Est-ce que vous avez rapidement une réponse pour Isabelle?
Je rallume vite la bécane parce qu'elle était coupée.
Oui, voilà aléas du direct.
C'est parfait. C'est de nouveau une de ces attaques de monilios, comme on a cité tout à l'heure avec Marcel. À ce moment, on peut plus rien faire. C'est juste un dégât qui est présent. C'est des petits éléments qui vont s'assécher, qui vont tomber, qui vont disparaître. Ce qu'il faudra, c'est, si vous voulez combattre ce phénomène, eh bien, au mois de mars, avril, l'année prochaine, de nouveau, une intervention avec un produit fongique, donc, qui va combattre la maladie, pas le parasite, mais que la maladie, juste avant fleur, pour éviter cette monilios qui rentre évidemment par les fleurs, et puis qui vous altère ce végétal. Ils vont survivre. Tous ces végétaux qui ont eu cette attaque ce printemps, on a eu une sale période humide en période de floraison et puis il faisait un petit peu frais et puis évidemment c'était une situation propice pour le développement de cette maladie. Ça va passer, ils vont survivre, simplement si vous voulez pour l'année prochaine, prenez ces mesures au préalable.
Et Noélie, oui. Il est temps de dire au revoir.
Merci Jean-Pierre pour votre visite et vos conseils toujours très précieux. On rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuve. Bon week-end et à bientôt chez les jardinières.
Oui, les jardinières partent se reposer. On sera de retour samedi prochain avec Nicolas Ruche, chef jardinier du Jardin Botanique à Neuchâtel, qui répondra à vos questions jardinage et nous parlera de plantations sur le balcon ou la terrasse. Bon week-end Noélie.
Bon week-end Mylène.
Et bon week-end Jean-Pierre. Et bon week-end à toutes et à tous.
Bon week-end, merci.
7h, 8h, les jardinières.